VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Chérubin Gaby Dorsil et Anastasie Tudiech avec vous. Bienvenue dans cette édition du vendredi 2 décembre 2016. Au sommaire ce soir...
Élection en Gambie, fin de règne pour Yahya Jammeh. Le président gambien a reconnu sa défaite face au principal candidat de l'opposition, Adama Barrow.
Portrait du vainqueur et du président sortant.
Réaction et analyse.
Un segment spécial dans notre journal.
Également dans l'actualité, nouvel ajournement du procès d'Amadou Ahia Sanogo au Mali.
Le président élu américain Donald Trump a choisi un général pour diriger le Pentagone.
Les sports et l'économie, c'est juste après le journal. Victoire surprise de l'opposition en Gambie. Le président de la commission électorale indépendante a déclaré élu Adama Barrow et... Cela va mettre fin à 22 ans de règne de Yahya Jammeh, qui a d'ailleurs reconnu sa défaite. Eric Manirakiza.
Le candidat d'une coalition d'opposition a réuni 45,5% des suffrages contre 36,6% pour Yahya Jammeh, selon Aliou Muammar Ndiaye, président de la commission électorale indépendante. Une double surprise, la victoire inattendue d'Adama Barrow et Yahya Jammeh qui a reconnu son camouflet électoral. Des manifestations de joie ont éclaté dans les rues de Banjul et dans plusieurs autres villes gambiennes en avril dernier. Des manifs qui réclamaient des réformes politiques ont été réprimées dans le sang. Un opposant est mort en détention et une trentaine ont été condamnés à 3 ans de prison, dont le chef de l'opposition, Ousseynou Darbo.
La Gambie a donc un nouveau président, mais qui est-il, Salwa Jafari?
Le soutien est là, le pouvoir appartient au peuple, vous ne pouvez pas le réprimer. C'est le peuple et le peuple est avec vous.
Adama Barrow a eu raison, il est pourtant l'homme qu'on n'attendait pas. Né en 1965, originaire de Bassantou, Barrow a ensuite déménagé à Londres au début des années 2000, où il a étudié pour un diplôme en immobilier, tout en travaillant comme gardien de sécurité pour financer ses études. Il s'est par la suite lancé dans les affaires avec son agence immobilière, la Majoun Real Estate, pour faire fortune, militant de l'UDP, le principal parti d'opposition depuis 1996. Il a servi comme trésorier. La désignation de l'homme d'affaires comme candidat à la présidentielle relève d'un concours de circonstances. Ousseynou Darbo, le leader de l'UDP, purge une peine de 3 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Barrow aura ainsi réussi l'exploit de faire tomber l'homme fort de Banjul, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans.
Adama Barrow arrive, Yahya Jammeh s'en va. Portrait d'un chef d'État qui n'a pas fait l'unanimité. Nani Talani.
Yahya Jammeh, 51 ans, est issu d'une famille paysanne de l'ethnie Djola. Ce capitaine de l'armée est arrivé au pouvoir en 1994 après un coup d'État contre le président Daouda Diawara. 2 ans après, il prend sa retraite de l'armée avec le grade de colonel pour créer son parti. Il remporte à 31 ans la présidentielle et sera réélu en 2001, puis en 2006, avant qu'un amendement constitutionnel supprime toute limite au mandat présidentiel en 2002. Il a un physique de lutteur, une canne taillée sur mesure et apparaît souvent avec plusieurs chapelets à la main. Aimant à se faire appeler son excellence tchèque professeur et là du docteur Yahya Adi Jammeh, il affirme guérir plusieurs maladies. Il avait déclaré pendant sa campagne « Peu importe ce que les gens disent de moi, c'est entre moi et Dieu ». Alors Dieu l'aurait-il subitement lâché puisque Yahya Jammeh a perdu par les urnes?
On peut l'imaginer, cette victoire inattendue du candidat de l'opposition a donné lieu à des scènes de liesse populaire. Idriss Fall a joint Alpha Diallo, journaliste VOA.
Les gens sont en train de célébrer depuis, même pendant la nuit, quand les résultats provisoires indiquaient qu'Adama Barrow avait une avance confortable. Ils ont commencé à fêter, à crier dans les rues en grand nombre. Je viens juste de parler à un reporter local et il a dit qu'aujourd'hui à Banjul, la capitale, à Serekunda, qui est une grande ville, Birkama et Pakao, c'est très explosif. L'atmosphère est très électrique. Les gens dansent et chantent partout parce qu'ils se sentent libérés du joug de M. Jammeh qui a dirigé le pays d'une main de fer.
La victoire de l'opposition et l'acceptation des résultats de l'élection par le président sortant Yahya Jammeh est une surprise pour de nombreux observateurs de la scène politique gambienne. Abdourahmane Dia a joint Fatou Jain Senghor de l'association Article 19 pour une analyse.
Le changement ne pouvait pas se faire avec le petit parti. C'était important d'être en coalition de ce parti. Mais aussi, j'ai 22 ans quand même de pouvoir autour du président Diame, 22 ans quand même qui ont été marqués par une répression très forte. Je pense que les uns et les autres avaient compris qu'il fallait faire le bon choix électoral l'année dernière. Qui ne prévoyait pas de deuxième tour. S'il y avait deuxième tour, ça allait encore prolonger la tension. Ce qui a beaucoup joué, je pense, c'est la volonté des populations de sortir et d'aller voter massivement.
Et quels vont être les défis du président élu?
Les défis sont énormes. Comment cette transition va être négociée avec le président sortant et son équipe pour éviter qu'il y ait en fait des problèmes de sécurité? Sachant que l'armée, quand même, il y a eu beaucoup de problèmes avec cette armée partisane. L'autre chose, c'est les défis économiques. La Gambie est presque à terre. Et aussi, renouer avec ses partenaires, ses relations internationales, notamment avec ses voisins, et rétablir, en fait, l'axe Dakar-Bandjous.
Fatou Ndiaye Senghor de l'association Article 19.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés. Quelques minutes seulement après l'ouverture de l'audience, aujourd'hui, le ministère public, constatant l'absence des avocats de la défense, a réclamé la suspension de la séance. Kassim Traoré.
Si les accusés sont rentrés dans la salle sans difficulté, les policiers qui procèdent aux fouilles corporelles à l'entrée de la porte de l'audience ont fait savoir aux avocats que le téléphone portable est interdit à toute personne, y compris les avocats, sans exception. Les avocats ont contesté cette décision des policiers. Ils ont demandé par la même occasion qu'une salle soit aménagée pour eux. C'est pourquoi les avocats de la défense sont restés à la porte. Pendant ce temps, le président du tribunal a commencé l'appel des accusés. Le ministère public constate l'absence des avocats de la défense et réclame la suspension du procès. C'est pour cela que le président de la session, Mamadou Berthe, a suspendu l'audience jusqu'au lundi 5 décembre 2016. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au moins 14 personnes, dont un bébé de 6 mois, ont été tuées aujourd'hui dans l'explosion d'un camion-citerne dans la ville de Teguina, au centre du Nigeria, ont affirmé des témoins à l'AFP. Les accidents impliquant des camions-citernes sont fréquents sur les routes du Nigeria.
Ibrahim Zakzaki, le chef du groupe chiite Mouvement islamique du Nigeria, ainsi que son épouse, ont été libérés aujourd'hui. Le couple s'est également vu accorder 25 millions de naira, soit près de 50 millions de francs CFA. Un tribunal nigérian a ordonné aujourd'hui leur libération sans condition, jugeant illégale leur détention depuis un an par le département des services d'État.
En Angola, les 37 personnes poursuivies pour tentative de coup d'État en janvier ont été interpellées en possession d'armes à feu à proximité du palais présidentiel, selon l'acte d'accusation lu aujourd'hui par le juge à l'ouverture de leur procès à Luanda.
Au Sénégal, le président Macky Sall et l'opposition sont tombés d'accord hier soir sur plusieurs points, dont la fixation de la date des élections législatives au 2 juillet 2017.
En Syrie, les rebelles et les leaders politiques de l'opposition insistent sur le fait que l'insurrection contre le président Bachar al-Assad continuera, même s'ils perdent le contrôle sur certaines parties d'Alep, la deuxième ville du pays. Cependant, les commandants rebelles disent qu'ils combattront en utilisant la province voisine d'Idleb comme base pour poursuivre leur guérilla contre le régime de Damas.
Aux États-Unis, Donald Trump continue de forger sa prochaine équipe. Hier après-midi, l'annonce du prochain chef du Pentagone a créé la surprise, Claire Morin-Gibourg.
Devant des milliers de supporters à Cincinnati, dans l'Ohio, à l'occasion de sa tournée de remerciements, Donald Trump a surpris son public.
We are going to appoint
Nous allons nommer Mad Dog, traduisé chien enragé, en charge de la défense. Jim Mattis, général des marines à la retraite, était l'un des finalistes pour ce poste crucial de la prochaine administration. Il est réputé pour son franc-parler. Donald Trump a promis d'intensifier la guerre contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak, deux théâtres d'opérations que le général Mattis connaît bien. À 66 ans, Jim Mattis sera le premier ex-général à devenir secrétaire à la défense depuis 1950.
Il semble que Barack Obama va léguer à son successeur une économie bien plus solide que celle dont il a hérité en janvier 2009. En effet, le taux de chômage vient de chuter à son niveau le plus bas depuis 9 ans, soit 4,6%. Le secteur privé a créé 178 000 emplois en novembre, ce qui rejoint les prédictions des économistes. Seul point sombre, les salaires n'augmentent pas assez rapidement.
Au plan politique, la saga post-électorale se poursuit dans les États du Wisconsin et du Michigan, remportée de justesse par Donald Trump. Des poursuites judiciaires ont été intentées pour mettre fin au nouveau décompte des suffrages. Les partisans du président élu Donald Trump ont déposé une demande auprès du tribunal fédéral hier dans le Wisconsin, sous prétexte que le nouveau décompte menace les droits légaux de ceux qui ont voté pour Donald Trump.
À Port-au-Prince, les candidats à la présidentielle haïtienne Jules Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse ont déposé un recours en justice pour contester les résultats préliminaires donnant le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, vainqueur dès le premier tour. Tout candidat s'estimant lésé avait le droit de déposer avant ce vendredi 10h un dossier de contestation. Après analyse et verdict des tribunaux électoraux, les résultats définitifs seront publiés le 29 décembre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec Nani Talani.
En Tunisie, le yuan, la devise chinoise, fait son entrée parmi les réserves de change de la Banque centrale. Dorénavant, les entreprises chinoises pourront payer directement en yuan, ce qui devrait baisser le prix des produits tunisiens. Auparavant, les partenaires asiatiques devaient s'acquitter de leurs factures en dollars majorées d'une prime de risque due à la forte volatilité des taux de change. Cette nouvelle devrait booster les exportations tunisiennes et l'arrivée des touristes chinois qui pourront utiliser leur propre monnaie. Selon les données rendues publiques par la Banque centrale d'Égypte, les échanges commerciaux entre l'Égypte et le reste du monde ont enregistré une baisse de 8,54 milliards de dollars au cours de l'exercice 2015-2016. Les échanges commerciaux s'étant élevés à 75,2 milliards de dollars contre 83,55 milliards de dollars pour l'exercice 2014-2015. Cette situation est due à un recul des importations et des exportations. Enfin, la Banque africaine de développement annonce avoir accordé au groupe bancaire nigérian United Bank for Africa une ligne de crédit de 150 millions de dollars destinée à financer des projets d'infrastructures et de petites et moyennes entreprises au Nigeria. Les fonds serviront à soutenir le développement des secteurs productifs de l'économie nigériane et plus particulièrement ceux de l'énergie, des infrastructures, des entreprises gérées par des femmes et des petites et moyennes entreprises.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
Alors, on connaît les trois finalistes pour le trophée du meilleur joueur FIFA de l'année.
Le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi, ainsi que le Français Antoine Griezmann. Ronaldo fait figure de favori avec un titre de champion d'Europe avec le Portugal, malgré une blessure en finale et surtout une victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid. L'Argentin Lionel Messi, lui, est le ballon d'or en titre. Et puis, le petit nouveau Griezmann, à 25 ans, il est devenu l'un des piliers de l'équipe de France. Il a été finaliste de la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, finaliste également de l'Euro remporté par le Portugal. Pour le titre du meilleur entraîneur, le coach français du Real Madrid, Zinedine Zidane, aux côtés du technicien de Leicester, l'italien Claudio Ranieri, et du sélectionneur portugais Fernando Santos.
Tournoi de l'UMOA, la grande finale, c'est demain.
Où elle opposera samedi le Sénégal au Mali au stade Kégué de Lomé, comme nous l'explique Élisée Ungpatine.
Ces deux sélections ont terminé respectivement en tête de leur groupe dans la poule A. Les Aigles ont fini avec 7 points, 2 victoires et 1 nul, surtout la victoire de la dernière journée qu'ils ont obtenue face à la Côte d'Ivoire 1-0. Même cas de figure pour les Lions de la Teranga qui sont eux aussi sortis avec 7 points et cette belle victoire pour finir 1-7-0 devant la Guinée-Bissau. En se retrouvant une fois encore en finale, cette fois à Lomé, Maliens et Sénégalais seront dans un face-à-face qui s'annonce épique. Le Mali aura l'occasion de prendre sa revanche puisque le Sénégal était sorti vainqueur il y a 6 ans à domicile sur la marque de 1-0. Une réalisation de Stéphane Badji. Boycon. Élisée Ungpatine, VOA Afrique.
Allez, on finit avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Pour la première fois de la saison, le champion NBA en titre Cleveland a concédé une deuxième défaite consécutive. Les Cavaliers de LeBron James ont perdu pied dans leur salle. Défaite 94-113 face aux Clippers de Los Angeles, qui restaient pourtant sur trois défaites d'affilée. Quant au grand rival Golden State, il a vu sa série de 11 victoires de suite prendre fin. À Oakland, le choc entre les deux équipes les plus spectaculaires de la NBA a tourné à l'avantage de Houston, qui a battu Golden State 132-127 après deux prolongations.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache et Chérubin Gabi Dorsil avec vous. Place au dossier du jour et notre première escale, Gabi, est en forme de breaking news à Luanda.
Pour parler justement de la déclaration attribuée au président angolais José Eduardo dos Santos, une déclaration très forte, Idriss Fall, qui est avec nous en studio. Monsieur dos Santos a dit qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat.
Oui, lors des élections générales de 2017, c'est du moins ce qu'a annoncé la radio officielle, la radio nationale, à Luanda. Monsieur Dos Santos, donc 74 ans, devrait céder la place à la tête du MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, à l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço. Il faut dire que avant cette annonce, Monsieur Dos Santos avait laissé entendre qu'il pourrait ne pas se représenter, mais il avait laissé dire que ce serait après les élections.
Et donc vous voulez dire, Idriss Fall, que ce n'est pas totalement une surprise ?
Pas tout à fait, parce que quand même il y a eu beaucoup de signaux. D'abord cette déclaration qu'on a lue à la radio nationale, il avait dit l'année dernière qu'il n'allait pas se représenter, mais pourrait participer aux élections et après démissionner. Et vous avez vu, il avait arrêté tous ces jeunes révolutionnaires qui demandaient son départ en disant que Dos Santos y en a marre. On les a jugés, mais ils ont tous été libérés, y compris le fameux rappeur. Bon, il faut dire que quand même, après près de 37 ans au pouvoir, Dos Santos est le père de la fille la plus riche du continent et qui est maintenant placé à la tête de la Sonangol.
Son et fils qui faisait est... l'actualité il n'y a pas longtemps.
Absolument. Donc, ses enfants sont bien à l'aise et que, bon, voilà. Et le MPLA est une machine assez huilée, d'autant que l'opposition de l'UNITA a connu beaucoup de morcellements. Certains ont été récupérés par le parti au pouvoir. Et donc, je pense que le MPLA a encore les cartes à main, quoi.
Alors, 2015, on s'en souvient, c'était l'année, je pourrais dire, de la crise du troisième mandat sur le continent africain. Tout le monde essayait d'une façon ou d'une autre de s'accrocher au pouvoir. On a appris que Yahya Jammeh en Gambie a décidé d'accepter sa défaite à la présidentielle. Maintenant, Dos Santos qui dit qu'il s'en va. Est-ce que c'est un nouveau signal ?
Oh, signal, ça dépend vers qui. Ça, vous le saurez peut-être dans les semaines qui vont venir. On va voir ce qui va se passer à Kinshasa. Le Congo-Brazzaville, le monsieur est encore là, donc je parle même pas de l'Éthiopie, j'oublie l'Ouganda de monsieur Museveni, donc je ne sais pas. En plus, même ça, ce n'est pas une vraie alternance. Si Dos Santos s'en va, l'MPLA va encore contrôler les affaires, hein, et c'est un parti nationaliste bien structuré, et je ne sais pas comment l'UNITA va venir prendre le dessus et renverser la vapeur.
Mais tout au moins, ce sont les caudillos qui décident de ne pas s'accrocher au pouvoir, c'est ce que je veux
ça,
dire.
Ça, c'est sûr, c'est absolument certain. Mais aussi, il faut mentionner que M. Yahya Jammeh, on attend son discours jusqu'à maintenant. Hein. On ne l'a pas encore entendu parler. Il avait promis de parler. La commission électorale a annoncé qu'il avait perdu. Mais jusque-là, il n'a encore rien dit.
Voilà. Merci Idriss Fall, l'un de nos rédacteurs en chef ici à VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila est de passage à Washington pour tenter de rassurer les Américains sur les intentions du chef de l'État congolais, alors que l'horizon semble toujours bien sombre dans le ciel politique quinois. Barnabé Kikaya Bin Karoubi affirme que Joseph Kabila sera toujours à la présidence après le 19 décembre, mais qu'il quittera bien le pouvoir quand son successeur sera élu. Une déclaration que ne vont pas forcément aimer les opposants congolais. Nicolas Pinault a rencontré Barnabé Kikaya Bin Karoubi. Écoutons-le.
Informés, les Congolais ont trouvé une solution pour l'après 19 décembre. Le président de la République, qui a déjà accompli ses deux mandats électifs, peut rester en fonction. Donc la fonction de président continue. Bien que la légitimité électorale se termine, mais la fonction de président se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président élu à qui le président Kabila va transférer le pouvoir. Voilà la situation. Nous avons convenu ensemble que le poste de Premier ministre, par exemple, irait à l'opposition alors qu'il devait revenir à la majorité présidentielle. Et lorsque le Premier ministre Sami Badibanga a été nommé, moi je crois savoir que la population congolaise, unanimement, a salué comme un geste finalement qui vient adoucir les tensions, baisser les tensions dans les rues de Kinshasa.
Certains vous accusent déjà de violer la feuille de route puisqu'il n'y a pas de gouvernement.
Ça ne saurait tarder. Il est vrai que c'est un exercice compliqué. C'est un gouvernement d'union nationale, ne l'oubliez pas. Maintenant, il faut à tout prix que ce gouvernement d'union nationale soit mis en place. Le Premier ministre poursuit ses consultations et je crois que d'ici le début de la semaine, nous aurons un nouveau gouvernement.
Joseph Kabila n'a pas dit clairement qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat.
Si vous avez écouté sa dernière adresse à la nation, il a dit clairement que la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions. Et une de ces dispositions, puis-je vous le répéter, est que le président actuel ne peut pas briguer un troisième mandat.
Aujourd'hui, vous dites clairement que le président Kabila n'a pas volonté de modifier la Constitution pour rester au pouvoir.
Ah non, modifier la Constitution, il l'a dit. Mais je vous fais remarquer que dans la région, dans notre région d'Afrique centrale, plusieurs pays ont modifié leur Constitution et que nous pouvions le faire en même temps qu'eux. Comme ça, on n'allait pas nous pointer du doigt. Mais nous ne l'avons pas fait.
Les membres du rassemblement, notamment l'UDPS, par la voix de Jean-Marc Kaboun, a appelé à une rencontre pour régler ces tensions, évidemment post-19 décembre, entre le président Kabila et Étienne Tshisekedi. Quelle est la réponse?
Il ne fait que nous rejoindre. Le président Kabila, lorsqu'il a reçu les membres du Conseil de sécurité, j'étais dans la salle. Laissez-moi vous dire que le président a lancé un appel pathétique à M. Étienne Tshisekedi de venir le rencontrer. Il a même dit aux membres du Conseil de sécurité, je vous remets mon numéro de téléphone privé. Allez le donner à M. Tshisekedi. Alors moi, je suis surpris que quelqu'un fasse une conférence de presse dans laquelle il répète la même chose. Le président Kabila n'a jamais fermé sa porte. Il est prêt à recevoir tous les Congolais. Il est là. Il est président de tout le monde.
Barnabé Kikaya Bin Karoubi, conseiller du président Joseph Kabila.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La Centrafrique a été suspendue du processus de Kimberley le 23 mai 2013 suite à la prise de pouvoir par les rebelles de l'ex-Séléka. Deux ans après, le diamant centrafricain a pu regagner de manière partielle le marché international. Un rapport de l'ONG canadienne Partnership Africa Canada révèle l'existence d'une importante fuite de diamants centrafricains via le Cameroun. Firmin Koyaweda a joint François-Alain Mbokoto, secrétaire permanent du processus de Kimberley en RCA.
Le rapport de l'ONG sur le point de l'existence de ces trafics entre le Centrafricain et le Cameroun a dit la vérité. Pourtant, il faut bien comprendre que ce n'est pas un phénomène que nous dirons nouveau. La contrebande a toujours existé entre ces deux pays, mais elle a pris beaucoup d'ampleur avec la suspension de la route centrafricaine et l'arrêt des exportations officielles.
À l'heure actuelle, quelles sont les stratégies mises en place pouvant permettre de lutter efficacement contre ces fuites?
Là, nous sommes en train de depuis deux ans, depuis la levée de la suspension, nous travaillons avec les collègues du processus de Kimberley Cameroun, nous travaillons là-dessus. C'est dans ce sens-là aussi qu'il y avait eu au mois d'août dernier une conférence sous-régionale à Bangui avec tous les ministres des mines de la sous-région. Le ministre camerounais était là pour trouver les voies et moyens afin de réduire à zéro ces trafics et contrebandes. Donc nous sommes informés de l'existence de cette pratique et les deux pays travaillent ensemble avec les pays de la sous-région Abidjan, le Congo, l'Angola, nous travaillons ensemble pour réduire la contrebande des deux frontières.
Pensez-vous qu'une levée complète de cet embargo pourrait aider à circoncire ces sorties illicites du diamant centrafricain vers le Cameroun?
Certainement. Nous travaillons effectivement pour qu'il y ait une levée entière sur la zone ouest, parce que nous savons que la zone est encore dans des difficultés relatives au conflit, relatives à la présence d'hommes en armes, et ce sera très difficile peut-être d'obtenir des levées de ce côté. Mais du côté de l'ouest, les conditions sont déjà réunies, et si le processus de Kimberley peut aider à déclarer entièrement la zone ouest conforme pour faciliter la reprise des exportations dans ces zones-là, ça va favoriser donc le combat, ça va permettre de réduire rapidement la fraude et la contrebande qui s'est installée à l'absence de l'exportation officielle.
On écoutait François-Alain Bokoto, secrétaire permanent du processus de Kimberley en RCA.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les maires de 90 grandes villes se sont réunis à Mexico pour discuter du réchauffement climatique. À la suite de quoi, les édiles de Paris, Mexico et Madrid ont annoncé leur intention de se débarrasser totalement des véhicules diesel d'ici 2025. Pour comprendre les implications d'un tel engagement, Dili Diko a joint à Dakar Ali Haïdar, célèbre défenseur de l'environnement.
Le premier constat, c'est que les collectivités locales aujourd'hui se saisissent de la préoccupation environnementale. Si je prends comme exemple une ville comme Dakar, 4 millions d'habitants, 140 microgrammes de particules de CO2 au mètre cube, alors qu'une ville comme Paris est à 28. L'OMC recommande 20. Donc vous voyez bien qu'on est une ville très polluée, malgré le fait qu'on n'est pas une ville industrielle, mais simplement parce que des multinationales, du fait que la loi le permet, achètent un gasoil rempli de polluants et font respirer ça aux populations. C'est formidable que les collectivités locales prennent cette préoccupation en charge. Maintenant, bien sûr, tout le monde parle de l'environnement, COP21, COP22, le Mexique. Donc, mon constat est que surtout, on continue à faire des sommets, des séminaires, des réflexions. Mais sur le terrain, je vous assure, la forêt continue à brûler. Les multinationales continuent à piller les ressources au détriment de l'intérêt général, au détriment de la planète et au détriment de la sécurité alimentaire et de la sécurité de santé. C'est ça qui est sur le terrain, c'est ça qui est visible. Et ça, malheureusement, tant que le modèle mis en place dans la planète sera une course vers la croissance, non une course vers la répartition des biens qui prennent en charge l'humanité et les populations, tant que ce sera comme ça, les multinationales continueront de diriger ce monde.
Alors justement, est-ce que vous pensez que cet engagement aura un impact significatif sur l'environnement pour lutter contre le réchauffement climatique?
Oui, forcément, ça aura un impact. Et j'espère que toutes les villes du monde iront dans ce sens. Mais bon, les avions continueront à décoller, les aéroports à être construits, les centrales au charbon, pareil, les centrales nucléaires, pareil. Je crois à une société qui se prend en charge et qui prend en charge les préoccupations de son environnement. Qu'est-ce que je consomme? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi je le consomme? À partir de là, nous aurons la chance d'avoir des solutions durables.
Est-ce que vous pensez que les villes africaines prendront des initiatives similaires?
Je pense qu'elles suivront forcément. Bien sûr, toujours avec un peu de retard, c'est normal parce que les villes africaines ont d'autres préoccupations de sécurité alimentaire, d'éducation. Il y a des urgences ailleurs pour le moment. Mais j'espère que très rapidement, les villes africaines suivront. Malheureusement, nos priorités, hélas, ne sont pas dans l'environnement aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'autres urgences criantes sur la sécurité alimentaire, la sécurité même et la santé, l'éducation. Mais ça viendra, forcément ça viendra.
Ali Haïdar, défenseur de l'environnement, joint à Dakar.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Lionel Gaïma avec l'assistance de Souleyman Tarawalé à la console, à la présentation Anastasie Tudiech et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à nos fans sur Facebook. Et n'oubliez pas que pour plus d'informations 24 heures sur 24, vous pouvez visiter notre site voaafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.